Nous allons faire ce soir la deuxième partie du sermon qu'on avait commencé sur la providence et nos affaires familiales. Donc, on va faire un bref résumé de ce que nous avions vu jusqu'ici. On avait regardé la providence et notre mariage. On avait examiné que les Saintes Écritures nous enseignent que la main de Dieu est définitivement active dans le mariage des élus. Et les Écritures nous disent que c'est une grâce et un don de l'Éternel. Exemple, dans Proverbe 19, ou verset 14, on lit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Bien sûr, je pense qu'on peut prendre le verset et aussi parler d'un mari intelligent. Alors, à quelque part, il faut se rappeler que les Écritures nous enseignent aussi que Dieu est actif dans le choix du conjoint. On se rappelle de Genèse 24, versets 7, 12, et 26 et 27. On a l'exemple d'Abraham, dirigé par le Seigneur dans le choix de l'épouse de son fils Isaac. On a vu également que le Seigneur s'occupe d'harmoniser les tempéraments et les dispositions des conjoints. Et on a examiné également dans notre dernier sermon le fait que Dieu se sert souvent du conjoint comme un instrument pour amener du bien dans la vie de l'autre conjoint. Et on avait regardé aussi différents exemples dans les Écritures où des gens ont eu des conséquences très graves suite à des mariages très mal assortis. On se souvient dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, le Seigneur nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » On avait regardé différents exemples dans les Écritures où parfois, les gens qui ont été imprudents ont eu des mariages mal assortis. On peut prendre l'exemple, par exemple, dans les Écritures de Abigail et Nabal, dont on se souvient que Nabal, son nom signifie fou. On a l'exemple aussi de David et de Michal, et on pourrait choisir d'autres exemples dans les Écritures. On avait vu aussi, comme deuxième point, la providence et nos enfants. Donc, le Seigneur s'occupe aussi de nous donner ou de nous refuser des enfants. Et on sait que c'est une grâce de Dieu. Par exemple, dans Genèse, au chapitre 32, verset 10, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. » On en a vraiment l'exemple où ici, il est parti avec rien et il revient avec une grosse famille. Et les Écritures nous enseignent également que c'est un héritage de l'Éternel que d'avoir des enfants. Dans le psaume 127, au verset 3 à 5, on lit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ornements à la porte. » On avait vu également que le Seigneur permettait que par les enfants, on a une grande source de joie. On lit par exemple dans Jérémie 22, versets 29 et 30, « Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. » Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Et on a plusieurs autres exemples. Alors on sait que c'est parfois une source de joie, et souvent, très souvent, une source de joie. Mais aussi, le Seigneur se sert aussi de nos enfants, parfois comme des instruments d'affliction. On peut se souvenir, par exemple, dans Genèse, au chapitre 26 et versets 34 et 35, que Ésaü était devenu un instrument d'affliction pour Isaac et Rebecca parce que Ésaü avait choisi des femmes dont, pour lesquelles le Seigneur avait dit qu'il ne devait pas se marier avec des étrangères. Alors on lit dans ce chapitre-là, 26, Genèse 26, 34-35, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Ils furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. On se souvient également que les Écritures nous ont démontré que les trois fils de David, Absalom, Amnon et Adonijah, furent aussi des sujets de grande peine pour leur père. Amnon avait violé sa propre sœur et Absalom et Adonijah avaient, quant à eux, excusez, tenté d'usurper le trône royal. Alors, on voit que parfois l'Éternel se sert de nos enfants comme des instruments d'affliction. On était rendu au troisième point, la providence et nos besoins. L'Éternel a promis de s'occuper de ses élus. Psaume 37, versets 9 et 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dans Luc 22, au verset 35, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Alors on sait que pour l'Éternel, ses élus, il exerce sur eux une activité constante et assidue. Genèse chapitre 48, versets 15 et 16, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Alors, on lit également aussi dans le psaume 111, versets 4 à 6, « Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qu'il craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. » Il y a un beau passage aussi dans Lamentations, chapitre 3, les versets 22 et 23, qui nous rappelle que l'Éternel renouvelle chaque matin ses miséricordes envers nous et ses compassions. On lit dans Lamentations 3, 22, 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! » On a également dans un passage dans Ésaïe 46, les versets 3 et 4, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir, et vous sauver. » Alors, on voit la fidélité de l'Éternel concernant les siens, même jusque dans leur vieillesse. On sait aussi que pour Dieu, il fait cette activité-là de veiller sur nous de façon convenable et de façon opportune. Alors, les providences de Dieu ont cette caractéristique qu'elles arrivent toujours au moment propice et favorable. Ésaïe, chapitre 41, versets 17 à 20. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cypress, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alors, on peut lire également dans Job, au chapitre 29, les versets 2 à 6, que l'Éternel nous envoie très souvent des bénédictions secrètes dont, malheureusement, nous ne sommes pas toujours conscients, mais nous devrions cependant. On lit dans Job 29, 2 à 6, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. » On sait aussi que c'est une activité qui est remplie de sagesse. Dieu a promis de combler nos réels besoins. Aussi est-il essentiel et important de les distinguer de nos besoins perçus, de nos supposés besoins et de nos besoins qu'on pourrait qualifier de charnels. Genèse au chapitre 28, les versets 20 et 21. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » On lit aussi dans le Proverbe au chapitre 30, et versets 7 à 9, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Alors, on voit également dans 1 Timothée, au chapitre 6, les versets 6 à 11, ce besoin que l'Éternel nous commande d'être dans le contentement en tout temps et en toutes circonstances. Verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Alors le Seigneur nous rappelle également que on se doit de lui présenter et, nos besoins. Alors dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » On a un rappel aussi de l'Éternel dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alors, on peut tirer plusieurs conclusions de cette brève étude de la Providence et nos affaires familiales. La première application, c'est le Seigneur nous demande de nous souvenir. Par exemple, dans le psaume 106, au verset 12 et 14. C'était un réconfort pour nous que de se souvenir et pour se rappeler qu'on doit de donner toute la gloire à Dieu. Dans le psaume 106, 12 à 14, ça dit « Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Alors Dieu, le Seigneur, nous commande de nous souvenir des providences qu'il a eues à notre égard dans notre vie passée, dans toutes sortes de circonstances, parce que ça aide au réconfort de nos âmes et ça aide aussi à donner la gloire à celui à qui elle appartient. Deuxième application, on se doit d'apprendre à faire confiance au Seigneur. Psaume 78, versets 19 à 22, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? » L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. » Alors, je pense qu'il y a des grandes leçons à retirer pour nous dans les paroles de du psaume 78, versets 19 à 22. On a tellement de difficultés à faire confiance à l'Éternel. Alors, il faut demander au Seigneur de nous apprendre à lui faire confiance en tout temps, en toutes circonstances, durant toute notre vie. Troisième application, on se doit de pratiquer le contentement. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, ça dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est important de réaliser que le contentement, c'est quelque chose que le Seigneur permet par des expériences qu'on puisse apprendre tout au cours de notre vie. Parce que dans le passage, on lit à deux reprises, « J'ai appris. » Alors, le Seigneur tricote nos circonstances de manière à ce qu'on retire des connaissances et pour le déroulement de nos vies, pour qu'on les mène selon ce que lui nous commande. Quatrième application, on se doit d'adorer, de louer et d'exprimer notre gratitude au Seigneur. Alors, on va regarder trois versets, un pour l'adoration, un pour la louange et l'autre pour l'expression de la gratitude. Commençons par la reconnaissance. Colossiens, chapitre 3, verset 15, « Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés, pour être un seul corps, tienne le principal lieu dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » On a tellement de choses à changer dans nos vies pour apprendre la reconnaissance. Maintenant, la louange, Apocalypse, chapitre 19, verset 5, et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, les petits et les grands. » Alors le besoin d'être reconnaissant, le besoin de louer le Seigneur, et aussi le besoin d'adorer. Dans Apocalypse, chapitre 14, versets 6 et 7, « Et je vis un autre ange qui volait, par le milieu du ciel, ayant la bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à grande voix, craignez Dieu et lui donnez gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. » Alors l'adoration, ça se manifeste dans notre vie de tous les jours, c'est simplement plier le genou, reconnaître que tout ce que Dieu permet qui arrive dans nos vies vient de sa main. On adore, on peut adorer dans tous les instants de nos vies, dans toutes les circonstances de nos vies. Mais c'est un apprentissage qui demande du temps. Et comme les Écritures nous l'enseignent, on se doit de réaliser que le Seigneur fait tout pour notre bien et que, comme ça dit dans Romains 8, 28, il nous apprend à être reconnaissant dans tout ce qu'il nous envoie. Et cinquième application, on se doit de prier pour toutes ces choses. Alors, Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que notre glorieux Seigneur soit loué, béni et adoré pour sa sagesse dans la direction de nos affaires familiales. Amen. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de nous avoir rappelé tous ces principes qu'on a besoin d'appliquer dans nos vies pour t'apporter honneur et gloire. Donne-nous, Seigneur, d'appliquer quotidiennement ces choses dans nos vies. Alors, on te demande ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.